David Ganodzi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le gérant chez Fidelity International. On va parler avec vous d'allocation d'actifs, de perspectives sur ces marchés. On a toujours les banques centrales qui sont à la manœuvre. On attend la réserve fédérale américaine. On attend de voir si Banque centrale européenne fait à nouveau quelque chose. On a vu la Banque du Japon à l'œuvre. Pour l'investisseur, aujourd'hui, il est obligé de regarder de près ce calendrier, même si à chaque fois, il le modifie.
Oui, parce qu'on voit que ça a quand même des effets assez importants sur la psychologie du marché. Dans le même temps, ce qui est assez frappant aussi, je pense notamment dans le cas de la Fed, c'est que la question de la politique monétaire américaine, elle est sur le tapis depuis pas mal de trimestres et je pense qu'elle va le rester encore un certain temps. Pour une raison particulière, c'est notamment parce que la Réserve fédérale est très à contre-temps des autres grandes banques centrales, puisque on va dire dans le monde en général, les banques centrales sont plutôt en faveur de l'économie et des marchés avec des politiques monétaires extrêmement agressives et de façon parfois un peu exotique. On vient de le voir avec la Banque du Japon. Alors qu'on a une réserve fédérale américaine qui, elle, est un petit peu à l'opposé, qui est très en avance dans le cycle, qui a déjà fait beaucoup et qui est confrontée à la difficulté de ramener sa politique monétaire vers quelque chose de plus neutre et de plus normal.
Ah oui, on a même dit ou on a pu lire qu'elle était en retard et qu'elle n'y arriverait pas à retrouver justement, à normaliser sa politique monétaire vu son retard.
Alors, en retard, peut-être pas, mais c'est vrai que objectivement, si on regarde le niveau des taux d'intérêt américains aujourd'hui et l'état de l'économie américaine du point de vue macroéconomique, ses performances en termes de croissance, d'inflation, c'est vrai que la politique monétaire américaine est encore extrêmement accommodante et peut-être trop accommodante. Donc c'est peut-être pour ça aussi que pas mal de ses membres du FOMC n'hésitent pas à le dire assez régulièrement, les taux sont probablement un peu trop bas. Est-ce qu'elle est très en retard? Je ne crois pas, parce qu'il n'y a pas de souci majeur d'inflation encore. Et puis surtout, elle a un rôle un peu particulier, parce qu'elle a un rôle sur l'économie américaine, mais elle est aussi très importante, elle donne un peu le la sur les marchés mondiaux. Et il me semble qu'une des raisons pour lesquelles elle n'a pas relevé ses taux au cours de la période récente, c'est plutôt pour des problématiques internationales. C'est finalement assez peu pour des raisons américaines. Si elle avait dû se concentrer que sur les fondamentaux américains, je crois qu'effectivement, les taux seraient déjà plus hauts. Or, il y a eu le Brexit, il y a eu les questions sur la Chine, beaucoup de fébrilité sur les émergents, et la Banque centrale américaine, c'est quand même un acteur majeur qui ne peut pas se permettre d'ignorer le reste du monde.
Est-ce que ça veut dire que du coup, la déformation des actifs est toujours en place jusqu'à temps qu'effectivement on retrouve une politique plus normale, entre guillemets, si on peut dire?
Oui, je pense que ça, c'est le point majeur pour l'investisseur et les investisseurs que nous sommes, c'est qu'effectivement, ces actions des banques centrales ont des effets de distorsion sur les marchés, et je pense en particulier aux marchés obligataires, puisqu'on est aujourd'hui sur des niveaux de taux d'intérêt extrêmement bas. Je pense aux taux longs, qui sont donc des taux de marché, qui ne sont pas des taux fixés par la banque centrale. Mais comme on a des banques centrales très agressives qui ont porté les taux courts très très bas, voire en négatif, et qui en plus ont été acheteuses, ou le sont encore aujourd'hui pour certaines d'entre elles, acheteuses de titres sur le marché, de titres obligataires, on a effectivement des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas, un marché obligataire qui est extrêmement cher. Et ça, ça fait un petit peu peur, mais je pense que de ce point de vue-là, les banques centrales sont tout à fait conscientes de la situation. Et en particulier, je pense que la Réserve fédérale américaine, si elle a été aussi prudente dans la période récente aussi, c'est bien qu'elle sait que les taux d'intérêt sont fragilisés aujourd'hui par son impact et que donc elles marchent sur des œufs et elles font très très attention en termes d'évolution de leur politique monétaire.
Vous parliez des marchés émergents, c'est vrai que les investisseurs les avaient délaissés au cours des derniers mois, peut-être en voyant ce calendrier de la Réserve fédérale américaine s'éclaircir, ce qui n'a pas été le cas. Est-ce qu'aujourd'hui ils présentent plus d'intérêt ou on a vu un certain nombre de flux effectivement sur ces marchés-là?
Alors il y a eu des flux effectivement, il y a un certain rattrapage puisqu'on a des performances qui sont assez honorables sur les marchés émergents cette année. Je pense que il y a eu plusieurs choses. La première, c'est probablement quand même le redémarrage relatif, mais quand même redémarrage des matières premières. Et beaucoup des économies émergentes sont quand même très sensibles au prix des matières premières. Il y a eu effectivement le statu quo de la Fed qui a plutôt aidé parce qu'en général, quand la Fed a tendance à resserrer sa politique monétaire, c'est plutôt défavorable pour les marchés émergents. Donc je pense que ces éléments-là ont plutôt joué en faveur des émergents. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une classe d'actifs qui est très attrayante? Je ne crois pas. Enfin, je pense que c'est intéressant d'en avoir dans un portefeuille pour la diversification. Mais d'un point de vue très tactique, la problématique de la Fed, elle va se reposer dans les prochains mois. Donc probablement qu'ils ne vont rien faire ici aujourd'hui. Et puis qu'en novembre, compte tenu de la proximité des élections, ça sera le cas également. Mais Probablement que décembre verra une hausse des taux aux États-Unis. Et c'est quand même un facteur de freinage de fragilisation et de freinage pour les émergents. D'autre part, il y a quand même dans certains pays émergents des questions qui sont encore assez graves, hein, en termes de perspectives de croissance et d'environnement politique qui risquent quand même encore de peser un peu sur cette classe d'actifs. Donc je dirais que la bonne performance qu'on a observée depuis le début de l'année, elle est bien à prendre, mais je pense que c'est difficile de la projeter sur des rythmes aussi soutenus.
Alors on a vu aussi du côté des actions, des secteurs un petit peu souffrir. On parlait des taux négatifs, on voit le secteur bancaire qui a un peu de mal, notamment dans certains pays comme l'Italie. On a vu aussi la Deutsche Bank faire un certain nombre d'alertes. Il y a des secteurs qui peuvent être touchés par cette situation un petit peu inconfortable.
Le secteur financier est quand même, on va dire au sens large, hein, banque et assurance, est quand même un peu soumis à un environnement très atypique et qui n'est pas très favorable pour la distribution de crédit et pour les marges du secteur bancaire. Donc effectivement, on pense surtout au secteur financier. Ceci étant dit, je pense qu'il ne faut pas non plus trop noircir le tableau. C'est vrai qu'en Europe, on a une question sur les banques italiennes, mais c'est surtout lié aux créances douteuses, hein. Sur le secteur bancaire européen dans son ensemble, le fait que les taux d'intérêt soient très bas, ça a quand même largement contribué au redémarrage du crédit. Alors certes, dans des conditions moins favorables pour les banques, mais le redémarrage du crédit, il a quand même été en grande partie permis par cette politique monétaire extrêmement agressive de taux d'intérêt très bas. Un très bon exemple, c'est le secteur immobilier. On le voit bien dans le secteur immobilier, par exemple en France, hein, ça a quand même largement stimulé la demande de crédit.
Le mot de la fin, justement, sur l'évolution de l'allocation d'actifs. Est-ce qu'on garde du cash? Comment ça évolue dans ce contexte de taux toujours bas?
Alors, dans ce contexte de taux toujours bas, la première chose à se dire, c'est qu'effectivement, si on ne prend pas de risque, on aura très peu de performance, puisque les ancrages, hein, les taux courts sont très très bas, les taux à long terme sont très bas aussi. Donc, sur les grandes classes d'actifs, il n'y a pas grand-chose à espérer. Et donc, c'est se dire que si on veut un peu de performance, il faut probablement aller en chercher du côté des actions. Ceci étant dit, je trouve que par rapport au début de l'année, notamment après la décision britannique de sortir de l'Union européenne, les actions européennes qui avaient, à mon sens, beaucoup d'attrait en ont un petit peu perdu. Donc je dirais que j'ai un peu moins d'enthousiasme pour cette classe d'actifs aujourd'hui, mais objectivement, on ne voit pas trop sur quoi d'autre on peut investir. Et puis, je dirais qu'à court terme aussi, on ne voit pas de raison d'être très négatif. Mais par contre, les éléments plutôt favorables qu'on avait en début d'année, après le vote britannique, ça a quand même jeté un peu ça a un peu refroidi les ardeurs, je dirais, sur les actions européennes.
Merci David Ganozzi.
Merci.